Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. La place Vendôme. En 1718, un arrêt du Conseil d'État a attribué l'hôtel de Bourvalais sur la place Vendôme au chancelier de France. François d'Aguesseau est alors le premier chancelier à s'installer dans l'hôtel particulier qui porte le nom d'un de ses anciens propriétaires. Depuis plus de trois siècles, le ministère de la Justice en France y a son siège, consacrant pleinement l'usage de l'expression « place Vendôme » pour désigner l'un des plus anciens ministères régaliens. Après la présentation de la place Beauvau dans un précédent podcast, nous poursuivons ainsi notre présentation des lieux de pouvoir, en montrant dans ce podcast comment l'hôtel de Bourvalais s'inscrit dans l'histoire du ministère de la Justice. Pour parler de la place Vendôme, je reçois aujourd'hui Benoît Kennedy, enseignant de culture générale et de droit public au sein de la prépa ISP. Bonjour Benoît Kennedy.
Bonjour Jacob Bérébi.
Benoît Kennedy, c'est toujours un plaisir de vous recevoir dans les podcasts de l'ISP et d'y suivre vos enseignements et votre expertise. Benoît Kennedy, tout d'abord, j'aimerais rappeler que la place Vendôme a été dessinée et créée par un célèbre architecte, Jules Ardoin Mansart, en 1686. La place Vendôme a alors été l'une des cinq places royales de la capitale française. On peut dire, Benoît Kennedy, lorsque l'on évoque la place Vendôme, que ses aménagements, comme ses changements de nom, reflètent l'histoire nationale. Est-ce le cas ?
Tout à fait, Jacob Bérébi. En effet, l'idée d'aménager la place Vendôme, qui va se construire là où s'érigeait l'hôtel de Vendôme, qui donnera son nom de la place. Alors l'hôtel de Vendôme, il avait été construit pour César de Vendôme, qui était le fils légitimé d'Henri IV et de Gabriel d'Estrées. Donc le projet est donc assez ancien. Toutefois, il faut le temps qu'il mûrisse. Jules Ardoin Mansart, vous l'avez signalé, a une carrière assez brillante. Il est devenu premier architecte du roi à partir de 1681. Surintendant des bâtiments de France à partir de 1685. On le connaît pour avoir achevé le dôme de l'Hôtel des Invalides et surtout pour sa participation importante au château de Versailles. Alors, Jules Ardoin Mansart va donc faire un premier projet en 1685 qui aboutit à la destruction de l'Hôtel de Vendôme et un deuxième projet en 1699 avec, d'ailleurs, le premier projet va être rasé. Donc, on voit les incertitudes qui peuvent régner autour de l'aménagement de la capitale française et le pouvoir s'il en est. Vous avez raison de signaler que c'est l'une des cinq places royales, les autres étant la place des Victoires, la place de la Concorde, la place des Vosges et la place Dauphine. Le projet qui est donc retenu à partir de 1699 est un projet d'une place rectangulaire ou octangulaire, ça dépend quelle figure géométrique peut être considérée comme la plus proche, la plus propice à décrire le lieu, qui en tout cas sera bordée d'hôtels particuliers, sur une longueur de 213 mètres et une largeur de 124 mètres. Quelques éléments de localisation. La place se trouve au nord du jardin des Tuileries, au sud de l'Opéra Garnier et à l'est, on trouve l'église de la Madeleine. Aujourd'hui, elle est sur un endroit où convergent la rue de la Paix et la rue de Castiglione. Alors, vous aviez raison, Jacob Bérébi, de souligner que c'est une place qui a changé de nom. Initialement, elle devait s'appeler Place des Conquêtes, conquête de Louis XIV, naturellement, puis la place Louis le Grand. Et d'ailleurs, au centre, était érigée une statue de Louis XIV à cheval en costume romain. Et cette statue va être abattue sous la Révolution, le 10 août 1792. Et d'ailleurs, la place va changer de nom, elle devient la place des Piques sous la Révolution. C'est d'ailleurs sous la Révolution que vont s'y dérouler une cérémonie en l'honneur de Louis-Michel de Pelletier de Saint-Fargeau, conventionnel assassiné le 20 janvier 1793. Et on va retrouver à nouveau le rôle de place de pouvoir sous l'Empire, Napoléon va y faire ériger la colonne Vendôme à partir de 1810 pour commémorer la victoire d'Austerlitz, exactement à l'emplacement où se trouvait la statue équestre de Louis XIV, avec une réplique de la colonne Trajane. Et autant Louis XIV était en costume romain, cette fois-ci Napoléon étant César. La statue est abattue en 1814, cette fois-ci par les Alliés, donc les puissances étrangères qui vont renverser Napoléon Ier. Et c'est Louis-Philippe qui, dans un souci de conciliation, veut à nouveau faire reconstruire une statue. Il choisit plutôt de représenter Bonaparte, le petit caporal. La décision est prise en 1831 et la statue est érigée à partir de 1833. Évidemment, les faits historiques aboutissent à ce que cette fois-ci Napoléon III préfère la statue originelle. Donc il reconstruit la statue de Napoléon en 1864 à l'identique de la colonne de 1810. On saura qu'elle est abattue par les communards en 1871. D'ailleurs, la place redevient à nouveau rebaptisée Place Internationale sous la Commune de Paris. Et elle sera reconstruite aux frais du peintre Gustave Courbet, anarchiste, qui a participé à sa démolition. Elle sera remise en place en 1873. Donc on voit véritablement que sur la place Vendôme, on a là un condensé de l'histoire de France et des symboles du pouvoir.
Ah oui, c'est vraiment une histoire extrêmement riche que celle de la place Vendôme. On l'a aussi dit, hein, c'est un modèle de l'urbanisme classique. La place Vendôme, on le sait, est intimement liée au ministère de la Justice, nous y reviendrons. Mais ce n'est pas tout. La place Vendôme est également connue parce que devenue l'un des lieux centraux de la mode et de l'élégance, dont rend encore compte son association actuelle au monde de la joaillerie. Il faut savoir qu'on y trouve les plus grands joailliers du monde qui ont pignon sur rue et qui vendent leurs bijoux célèbres à des tarifs absolument faramineux, notamment les bagues de fiançailles. Petit en passant. Expliquez-nous cela, Benoît Calédé.
Écoutez, tout à fait. La place Vendôme, en fait, représente ce qu'il y a à Paris, où des rues sont souvent liées à des professions. Hein. Ceux qui sont d'autres collectionneurs de choses moins chères, de timbres et de philatélistes, savent que des rues dédiées le sont à côté du quartier de la Bourse. La place Vendôme ne fait pas exception. Alors, vous avez raison de souligner, Jacob Bérébi, qu'elle a un modèle d'urbanisme classique, avec son plan carré, avec des plans coupés aux angles, surtout des façades uniformes, des 27 hôtels particuliers, et avec une grande symétrie sur un style à la française. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette élégance urbanistique doit également se retrouver dans l'élégance de la mode. Initialement, les joailliers et les bijoutiers étaient plutôt rue de la Paix. Et d'ailleurs, la rue de la Paix et la rue de Castiglione, la place Vendôme est dans le prolongement. Finalement, c'était la continuité naturelle, pourrait-on dire, de ces lieux mode et élégance. Alors, vous avez raison de le souligner, Breguet, Cartier, Chanel, s'agissant des bijoutiers pour l'horlogerie Rolex ou Patek Philippe, mais on trouve aussi la maroquinerie, Vuitton et Hermès. Et pour finir cette description du monde du luxe, au numéro 15, s'érige l'hôtel Ritz.
Alors, très bien, merci Benoît Calédé pour ces précisions. Une petite chose qu'on a relevée lorsque l'on a préparé ce podcast, Henri Salvador a vécu au numéro 6 de la place Vendôme, le numéro 6 de la place Vendôme qui abrite l'hôtel Tibère des Martrais. Expliquez à nos auditeurs qui est Henri Salvador et pourquoi on a relevé cette précision.
Oh, écoutez, Henri Salvador, chanteur, acteur, auteur, compositeur, interprète, que les plus jeunes d'entre nous connaissent encore, enfin je l'espère. Oui, il devient effectivement l'un des symboles d'un certain monde du showbiz. Mais il habitait au dernier étage de l'hôtel Tibère des Tartrais de 1962 à sa mort en 2008. Et alors, l'hôtel n'est pas forcément le plus connu. Il faut voir qu'aujourd'hui, au rez-de-chaussée, vous avez la boutique Breguet. L'hôtel a été construit par l'architecte Robert Decote. Il avait été construit pour Charlie Carr. Il porte le nom d'un avocat qui en avait été le propriétaire. Et en fait, on voit ici donc, finalement, l'association étroite entre les mondes du show business, du luxe, puisqu'on retrouve encore dans cet hôtel, l'hôtel Tibère des Tartrais, au premier étage, l'appartement Christian Dior.
Alors, Benoît Calédé, si vous le voulez bien, après cette introduction un peu délayée, venons-en à la raison même de ce podcast. Si, on l'a dit, la place Vendôme est bordée d'hôtels particuliers, deux d'entre eux particulièrement nous intéressent. Ils sont occupés par le ministère de la Justice. C'est l'hôtel de Simiane au numéro 11 et surtout, nous en avons déjà parlé, l'hôtel de Bourvalet au numéro 13. Est-ce que vous pouvez revenir avec nous sur l'histoire de ces bâtiments, s'il vous plaît ?
Bien sûr. L'hôtel de Simiane a été construit de 1708 à 1714 par Germain Beaufranc pour la comtesse Suzanne de Simiane de Lacoste. Elle-même était la nièce du financier Paul Buisson de Bourvalet qui était le propriétaire du numéro 13. Buisson de Bourvalet était richissime. Il fait partie de ses intendants des finances. Malheureusement pour lui, il va y avoir une vérification générale, puisque la fortune ostentatoire des traitants suscite évidemment la jalousie, surtout quand le pays crie famine. Il sera accusé de malversation et ses biens sont mis sous séquestre. Finalement, l'hôtel est acquis par le régent, puisque nous sommes en 1717, hein, donc Louis XIV est mort, Louis XV est trop jeune pour régner, donc c'est le régent qui gouverne en son nom. Donc l'hôtel est acquis par le régent pour le compte de l'État, et il est attribué à la chancellerie de France, vous le disiez en introduction, en septembre 1718, il occupait à ce titre depuis 1719. Il y a une forme d'ironie finalement à penser que le ministère de la Justice utilise des biens qui ont été mis sous séquestre, qui ont été mis sous séquestre à la suite de malversations. Donc aujourd'hui, on voit véritablement que les deux ont une certaine continuité. Le numéro 11 sont des bureaux en fait, du ministère de la Justice. Le numéro 13 sera l'appartement. Alors le numéro 13, hôtel de Bourvalais, il était construit un petit peu plus tôt, 1697-1702, par Robert de Cotte. Et il avait effectivement changé plusieurs fois de propriétaire avant de prendre le nom du propriétaire, sinon le plus illustre, en tout cas peut-être le plus flamboyant.
Alors, revenons maintenant, si vous voulez bien, sur l'aménagement actuel de l'hôtel de Bourvalais, les salons de réception, le bureau du ministre, naturellement. Comment se met en scène le ministère de la Justice en tant que lieu de pouvoir ?
C'est intéressant à noter parce que, comme d'autres lieux, il a été incendié en 1793. Et finalement, il reste assez peu d'éléments d'origine. Une des pièces préservées, c'est le bureau du ministre, justement, qui est l'ancienne bibliothèque royale. Et aujourd'hui, le ministre de la Justice travaille sur le bureau de Cambacérès et il y a une presse à sceller qui se trouve dans la pièce. Alors, aujourd'hui, dans sa configuration actuelle, qu'il s'agisse des aménagements intérieurs, mais aussi d'agrandissements fastueux, naturellement, tout cela date du Second Empire. Comme dans tout hôtel particulier, on entre par un escalier d'honneur qui était décoré de 3 tapisseries de la manufacture des Gobelins. Un des joyaux de l'architecture classique est l'ancienne bibliothèque avec ses boiseries blanc et or. On accède à un petit salon, le salon Danton, éphémère ministre de la Justice d'août à octobre 1792, de style rocaille. Donc rocaille, c'est du style rococo, 18e siècle. Le salon d'apparat ou le salon rouge est appelé salle du Conseil d'État et l'on peut s'asseoir dans l'un des magnifiques 33 sièges en acajou d'époque restauration. Bref, le ministère de la Justice exprime sa puissance, son pouvoir. Il n'y a pas que les tribunaux qui doivent en imposer. Le siège même du ministère doit être à l'unisson.
Ah oui, c'est tout à fait exact. Pour l'avoir visité à l'occasion des Journées du patrimoine et en plusieurs autres occasions, avoir eu la possibilité d'en voir quelques parties, quelques pièces, etc. C'est effectivement très impressionnant en termes de faste, mais je dirais non pas bling-bling, évidemment, mais de faste historique, de cette dimension de pouvoir se ressent évidemment, et je dirais presque à chaque étage, ce que ne donne pas forcément comme impression la façade au premier abord. Benoît Kennedy, on retient généralement la date de 1790 pour déterminer la création du ministère de la Justice, je dis bien du ministère de la Justice, avec la suppression de l'office de chancelier de France. Même si, encore une fois, il n'est pas rare d'entendre parler de l'hôtel de Bourvalais et du ministère de la Justice comme de la chancellerie, dans les bureaux même du ministère d'ailleurs. Dans quelle mesure la Révolution française, que l'on a déjà évoquée, opère-t-elle une rupture de ce point de vue-là avec l'Ancien Régime ?
Oui, vous avez raison de le souligner, on a une continuité en partie des termes, mais pas des fonctions. Sous l'Ancien Régime, le roi est un juge, c'est même le juge suprême, même s'il délègue l'exercice de la justice à des officiers. C'est la formule qu'on trouve dès le XIIIe siècle du roi Fontaine de Justice. Or, parallèlement à ces fonctions judiciaires, il y a un essor du droit, qui s'exprime tout particulièrement au moment des Lumières, où les philosophes soulignent que la justice payante, donc où on achète ses juges, est l'objet d'un très fort mécontentement populaire, qui exprime d'ailleurs assez largement les cahiers de doléances en 1789. Ce n'est pas non plus un hasard, cet ensemble de révolutionnaires sont justement des hommes de loi et qui, par rapport à des principes tels qu'ils vont être diffusés par les philosophes des Lumières, on voit un décalage qui est absolument faramineux. Alors en 1790, la loi fondatrice est celle des 16 et 24 août 1790, qui fonde une nouvelle organisation judiciaire qui va reposer sur les juges de paix. Dès lors, les magistrats ne sont plus désignés par le roi. Et on voit que les principes d'égalité devant la loi, d'égalité devant la justice, qui sont au cœur de la Déclaration des droits de l'homme et de la citoyenne de 1789, vont finalement imprégner cette nouvelle organisation judiciaire. On peut réellement parler de l'émergence d'une justice moderne.
Alors, ça c'est la Révolution française et ce moment marquant, cette transition que vous avez notée. Depuis 1790, Benoît Kennedy, quelle grande date peut-on retenir pour traduire l'inscription de la France dans un ordre judiciaire que l'on dira moderne et résolument moderne même?
Alors en fait, la Révolution va voir dès la période de l'Empire un retour à un certain nombre de symboliques et de fonctions qui rappellent celles d'Ancien Régime. Si on veut voir que Napoléon représente une synthèse, l'Empire de la Révolution et de l'Ancien Régime, la justice s'exprime assez bien. Alors le cadre juridique déjà est fixé, 1804 c'est le code civil, 1810 le code pénal. On retrouve une organisation judiciaire où se mettent en place les cours d'appel, donc un système à plusieurs degrés, les cours d'assises pour les crimes les plus importants. La dualité juridictionnelle date aussi, elle est un peu antérieure, elle date du consulat, avec la création du Conseil d'État en 1799 sur le modèle de l'ancien Conseil du Roi. Progressivement, les différentes étapes de ce qui fait une justice moderne se mettent en place. L'aide juridictionnelle, c'est 1851. S'agissant de l'avocat, c'est plus tardif. On voit donc que le dialogue entre avocat et magistrat met un temps avant de s'instaurer sa loi Constante, 1897, qui reconnaît la place de l'avocat dans le processus d'instruction. Si on devait retenir ensuite quelques dates, on peut citer l'ordonnance 1945 sur l'enfance délinquante ou sur une période encore plus récente, la création du juge d'application des peines en 1958. Bref, vraiment tracé à très grands traits. Hein. Je pense que si on voulait faire une histoire de la justice, il y faudrait plus qu'une question d'un podcast. Il faut voir que la France, en tout cas, s'insère pleinement dans le nouvel ordre judiciaire international, puisqu'en effet, ces principes sont consacrés à un niveau européen et international, sinon la Cour européenne des droits de l'homme, qui est créée en 1959, et la Cour pénale internationale, qui se met en place en 2002. À noter que ce dialogue, puisqu'un certain nombre de ces juridictions, le système juridictionnel français sert souvent de modèle, inspire, donc un certain nombre de magistrats français participent à ces juridictions, mais en même temps, ça permet d'ouvrir la magistrature française à d'autres pratiques que la pratique qui est héritée du droit français.
Alors Benoît Kennedy, une question qui revient souvent à l'occasion des études du droit ou encore de sciences politiques, une question qui revient lors des examens et concours, et elle n'est pas des moindres. Très souvent, l'on connaît la formule, on connaît cette double appellation, mais sans savoir sa signification. Le ministre de la Justice porte concurremment le titre de garde des Sceaux. Sa désignation apparaît particulièrement stable en tant que telle dans la composition du gouvernement. Au fur et à mesure des années, cette double appellation traverse les temps. Peut-on revenir sur cette fonction de garde des Sceaux ? À quoi correspond-elle aujourd'hui ?
Alors vous avez raison de le signaler, la fonction de garde des Sceaux, elle renvoie aux premiers Sceaux qui ont été créés par les rois mérovingiens pour authentifier leurs actes. Il y avait un sceau pour chaque souverain qui était représenté en majesté, et c'est progressivement qu'il va prendre ses caractéristiques actuelles, notamment son diamètre de 12 cm. Le 21 septembre 1792, d'ailleurs quand la République est fondée, symboliquement, les sceaux royaux sont brisés et envoyés donc à la Monnaie de Paris pour refonte. En fait, aujourd'hui, le sceau actuel, tel que nous le voyons, est un sceau qui est l'œuvre du graveur Jean-Jacques Barre en 1848, donc de la Seconde République, une figure de la liberté assise, portant le faisceau de Lictor, sainte de la couronne de chêne et d'olivier et arborant une gerbe de blé, avec la légende République française, démocratique, une et indivisible. Alors, en fait, c'est sous la Seconde République, justement, que le titre de garde des Sceaux va être adjoint à celui de ministre de la Justice. Et aujourd'hui, le scellement, c'est-à-dire une presse avec un sceau, reste un acte qui est effectué reste un geste effectué pour les actes les plus importants. C'était le cas pour la Constitution du 4 octobre 1958, la Constitution actuelle, c'était aussi le cas de la Constitution de 1946, de la 4e République, et enfin pour certaines modifications constitutionnelles. D'ailleurs, quand on scelle un acte, la cérémonie se tient à l'hôtel de Bourvalet. Je rappelais que le ministre a un sceau dans son bureau, et le directeur des affaires civiles et du sceau déclare alors qu'il plaise au ministre de bien vouloir apposer le grand sceau de la République française. La machine à sceller date de 1810, et donc la symbolique du sceau pour les actes les plus importants, qui est un héritage directement royal, même si son champ s'est réduit, reste un des symboles les plus forts.
À l'occasion de la récente réforme constitutionnelle, l'introduction de la liberté d'avoir recours à l'interruption volontaire de grossesse, on a vu justement M. Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, garde des Sceaux, a posé le sceau à la suite donc de cette révision. Alors, puisque je viens de citer un ministre de la Justice, garde des Sceaux, je vous pose la question, Benoît Kennedy, et s'il fallait citer trois gardes des Sceaux, lesquels retenir? Je vous avais déjà posé la question sous forme de colle lorsque l'on avait fait le podcast sur la place Beauvau et je vous avais demandé de retenir trois grands ministres de l'Intérieur. Eh bien, je vais vous demander trois grands
ministres
de la Justice, enfin grands, à tout le moins ceux que vous avez décidé de retenir.
Et oui. Car il y a ceux que je ne citerai pas, vous savez, c'est comme dans les sélections pour les Césars, hein, ceux qui sont nominés mais qu'on ne retient pas. Je ne prendrai pas Robert Schuman, ni François Mitterrand, ni Michel Debré. Puisqu'en fait, je pense que Robert Schuman est déjà plus, à mon avis, un des fondateurs de la construction européenne. François Mitterrand, déjà un homme politique. Michel Debré aussi. Mais parce que je lui préférais un contemporain. Alors, on va en prendre trois. Un au centre, un à droite, un à gauche. En bonne logique. Au centre, même si le centre a été déporté sur la gauche à l'époque, Léon Bourgeois. 1851-1925, fils d'horloger, né rue Saint-Louis-en-Lille, donc un parfait parisien qui se porte volontaire pour la défense de Paris en 1870. Léon Bourgeois a été fonctionnaire, préfet du Tarn, il était plusieurs fois ministre, président du Sénat. Il a été, dans le cadre notamment de ses fonctions ministérielles, donc ministre de la Justice. Et il est surtout connu pour sa doctrine, le solidarisme, qui en fait veut annoncer les premières retraites ouvrières, l'impôt sur revenu, la séparation des Églises et de l'État. On est à la fin des années 1890, il n'y a pas de majorité politique pour mettre en place ce programme qui sera celui de la République radicale, peut-on dire, celle telle qu'elle était désignée peu à peu de fin 19e, début 20e siècle. L'idée du solidarisme, c'est une synthèse entre le socialisme et le libéralisme, où on peut dire que l'individu isolé n'existe pas, il fait partie d'un ensemble solidaire, et celui qui a réussi a une dette vis-à-vis de la société. Léon Bourgeois, qui est également une des figures des mouvements humanistes en France, donc de la franc-maçonnerie, a été aussi le premier président du Conseil de la Société des Nations, lauréat du prix Nobel de la paix. Il exprime en quelque sorte une sorte d'idéal fonctionnaire, j'ai envie de dire dévoué au bien public, mais qui se traduit dans un programme politique. Deuxième ministre de la Justice que j'ai choisi, Jean Foyer. Jean Foyer, 1962-1967. Lui n'est pas un progressiste, même si il a même été l'un des plus hostiles au syndicat de la magistrature. Il fera une tribune dans le Figaro en 1975, qui fera couler beaucoup d'encre. Jean Foyer, en tout cas, est un fils de notaire. Léon Bourgeois, lui, était fils d'horloger. Professeur de droit, résistant gaulliste, né en 1921, qui nous a quittés en 2008. Il est le créateur de la Cour de sûreté de l'État pendant son très long mandat de ministre de la Justice, 1962-1967. Il est à l'origine de très nombreuses réformes du droit civil et commercial, sur le régime matrimonial en 1965, sur l'adoption en 1966, et il continuera en tant que président de la Commission des lois de l'Assemblée nationale. Par exemple, on lui doit l'autorité parentale et la filiation, la loi de 1972. Donc Jean Foyer mérite, je pense, parmi les grands ministres de la Justice, parmi ceux qui sont dévoués au droit, et tout particulièrement au droit civil et commercial, auquel je sais que vous êtes attaché, Jacob Grémy, peut-être pourriez-vous signaler d'autres réformes.
Elles sont bien nombreuses, hein, mais Jean Foyer a été un des grands artisans de la modernité, effectivement, du droit privé, et notamment, effectivement, vous l'avez cité, du droit civil, du droit de la famille, dans les années 60-70, une modernité de son temps, hein, et, donc toutes choses égales par ailleurs. La plupart des dispositifs de l'époque nous sembleraient aujourd'hui, effectivement, eu égard à l'évolution des bonnes mœurs, quelque peu rétrograde, mais déjà à l'époque, il s'agissait d'avancées et de constructions qui ont permis de préparer véritablement l'égalité dans le couple, qui ont permis également de préparer la dimension moderne de la filiation et de l'autorité parentale, comme vous l'avez dit, Benoît Kennedy. Jean Foyer est un des grands architectes, encore une fois, du droit privé moderne. On le ressentait comme ça. Et puis, je tiens à le souligner, vous allez dire que je prêche pour ma paroisse, mais c'est quand même un des seuls ministres de la Justice et garde des Sceaux qui s'est autant intéressé aux relations personnelles, aux relations individuelles, à la situation des particuliers. Il était l'un des premiers à évoquer aussi le droit de la consommation, qui ne naîtra véritablement qu'avec le code de la consommation dans les années 90, mais les premières constatations d'un besoin d'un droit spécifique de la consommation se sont faites dans le gouvernement grâce à ce garde des Sceaux. Encore une fois, il est tout à fait unique hein, parmi les gardes des Sceaux, en ce sens où il ne s'est pas intéressé qu'au pénal et à la petite pénale, même s'il a aussi été un architecte d'une certaine révolution à l'époque dans ces matières.
Tout à fait. C'est vrai que généralement, le droit est vu dans sa dimension pénaliste, politique, et Jean Foyer, c'est un civiliste, un civiliste jusqu'au bout des ongles, ce qui ne les intéresse pas de la politique. Hein. C'est un ancien résistant gaulliste qui connaît ces sujets, et qui d'ailleurs avait été aussi l'auteur d'un manuel de droit civil. Donc c'est-à-dire qu'il l'a connu déjà par la forme pratique, pleinement, pour ensuite effectivement le faire évoluer. Et je pense qu'il mérite d'être cité parce qu'il fait partie quand même des bases du droit civil commercial moderne, du droit de la personne, et qui est un peu oublié. Allez, Robert Badinter, puisqu'il vient de décéder, puisque je ne cite jamais de personne déjà en vie, ce serait trop facile, ce serait du culte de la personnalité. Je suis hostile au culte de la personnalité. Principe personnel, Robert Badinter, ministre de la Justice de 1981 à 1986. Il était né en 1928, son père était un commerçant en pelleterie en gros, et il nous a quittés le 9 février 2024. Professeur de droit privé, avocat au barreau de Paris, il a notamment commencé en 1951 comme le collaborateur d'Henri Torres. Son long mandat de ministre de la Justice sous la présidence de François Mitterrand de 1981 à 1986 est marqué bien sûr par l'abolition de la peine de mort. Lui-même avait plaidé au procès de Patrick Henry. Mais il a aussi joué un rôle important pour la réinsertion des détenus, un rôle également de mesure de lutte contre l'antisémitisme et l'homophobie. Mais pas seulement, il a une œuvre juridique qui est assez importante. Je pense par exemple à la loi Badinter de 1985 sur l'indemnisation des victimes d'actions de la route. Donc on voit aussi que ce qui fait, à mon sens, un grand ministre de la Justice, après il faut qu'il y ait évidemment la durée, c'est aussi de s'intéresser au droit dans toutes ses composantes.
Oui, Robert Badinter, que je rappelle être le parrain de la promo des élèves préparant le concours de l'ENM au sein de l'ISP en 2023, même si, à son grand regret, il était déjà particulièrement fatigué et n'avait pas pu intervenir aussi souvent qu'il avait souhaité. Il leur avait adressé un mot au moment du séminaire de rentrée, et il avait aussi adressé à plusieurs reprises de gentils mots d'encouragement, y compris à l'occasion des résultats. Si vous avez l'occasion de venir à la prépa, on a fait encadrer ces lettres toujours manuscrites qu'il a adressées aux élèves de la prépa ENM et à Julia Berman. C'est quelque chose à voir, je vous y invite. Benoît Kennedy, on arrive déjà au terme de ce podcast. Alors je salue le choix que vous avez fait. Je n'avais pas la maîtrise des trois ministres de l'Intérieur que vous avez cités dans le podcast sur la place Beauvau, mais là je ne peux que saluer et je m'accorde complètement sur votre choix. Je comprends que vous n'avez pas voulu citer de vivant, c'est pour ça que vous n'avez sans doute pas cité François Bayrou, pourtant dont l'œuvre a été absolument exceptionnelle. J'ironise évidemment. Benoît Kennedy, je disais que nous arrivons au terme de ce podcast. S'il fallait, pour finir, cette fois-ci citer quelques procès historiques, quelques grandes affaires qui ont marqué l'histoire du ministère de la Justice, qu'est-ce que vous nous diriez ? J'ai bien là aussi quelques idées et je vais voir si nous accordons, parce que pour le coup, je ne sais pas ce que vous avez choisi.
C'est tout le mystère. Déjà, je vais rester sur une période récente. Hein. On ne montera pas jusqu'à Jeanne d'Arc où j'ai failli citer Landru, etc. Mais que dire d'autre à part que ça participe, bien sûr, c'est des crimes ignobles, mais qui renvoie plus, à mon avis, sur l'histoire policière et un certain climat. Et pourtant, on en verra dans certains des cas que je vais vous citer. Premier procès auquel j'ai pensé, c'est le procès de Bobigny, octobre-novembre 1972. C'est l'avortement d'une mineure après un viol, Marie-Claire Chevalier, avec des co-accusés qui sont quatre femmes, elles, majeures, qui vont être accusées de complicité ou de pratique de l'avortement. L'avocate Gisèle Halimi va dénoncer à cette occasion la pénalisation de l'avortement. D'ailleurs, Marie-Claire Chevalier va être relaxée. car ayant souffert, je cite, de contraintes d'ordre moral, social, familial, auxquelles elle n'a pas pu résister. C'est très intéressant comme jurisprudence, qui est assez originale dans la manière dont elle était rédigée. Gisèle Halimi fait une plaidoirie brillante, qui aboutira peu après, d'ailleurs, au vote de la loi du 17 janvier 1975 sur l'observation volontaire de grossesse portée par Simone Veil. Donc un procès qui, pour le coup, va finalement contre-courant de ce qui était la loi à l'époque, et qui permettra également de la faire changer dans l'avenir. Deuxième procès auquel...
Pardon, je vous interromps, oui. Juste pour l'anecdote, oui. S'il en est. Je rappelle que Gisèle Halimi est apparentée et était une cousine de Julie Merman, directrice de la prépa ISP. Pardon de vous avoir interrompu.
Ce n'était pas de la publicité déguisée. Je n'aurais pas osé.
Je ne vois pas en quoi ça serait une publicité, Benoît Kennedy. J'ai eu le temps de vous interrompre. Poursuivez.
Oui, mais c'est vrai que maintenant je comprends mieux pourquoi la présence de Gisèle Halimi dans nos murs. Non, mais Gisèle Halimi, ceci dit, sur ce combat, est un combat extrêmement difficile. Quand on sait que la haine dont a été quand même poursuivie Simone Veil, elle en a été également très largement la cible.
Puis peut-être que la parenté familiale révèle aussi des traits de caractère, d'une force de caractère qu'ont en commun Julia Berman et feu Gisèle Halimi.
Oui. Deuxième procès, janvier 1977, Patrick Henry, qui est jugé pour le meurtre d'un enfant de 7 ans, Philippe Bertrand. Procès qui révulse la France. Au journal télévisé TF1, le présentateur Roger Jiquel dit « La France a peur », une formule qui fera mouche. Et Patrick Henry, l'opinion va prendre largement en fait et cause contre lui et va exiger l'application de la peine de mort. Ses avocats, bien sûr Robert Badinter, j'y reviens, mais aussi Robert Bocquillon, ils étaient plusieurs, font faire en fait le procès de la peine de mort, donc qui sera aboli le 9 octobre 1981. Et donc Patrick Henry sera finalement condamné à perpétuité et non pas condamné à mort. Alors, pour son histoire, il bénéficiera d'une liberté conditionnelle, libéré le 25 janvier 2001. Mais il fera un trafic de cannabis qui le remettra derrière les barreaux, donc à nouveau la liberté conditionnelle va donc être annulée. Et il ne retrouvera finalement en liberté qu'en septembre 2017, donc 40 ans plus tard, gravement malade. Et d'ailleurs, il décédera en décembre 2017. Alors là aussi, un procès qui est intéressant, puisqu'en quelque sorte, ce n'est pas tant les faits qui vont faire débat que l'application de la peine qui va être faite. Et justement, dans le système judiciaire, le sens accordé à la peine de mort, donc l'abolition de la peine de mort, voit beaucoup un procès comme celui de Patrick Henry. Le troisième procès que je citerai, c'est le procès des attentats du 13 novembre 2015 qui vont entraîner 130 morts. Un procès hors normes, plus de 2300 parties civiles, 330 avocats, 141 médias accrédités, une salle de 500 places spécialement aménagée dans la salle des pas perdus du ministère de la Justice, un dossier d'instruction d'un million de pages, 704 heures d'enregistrement, 20 condamnés qui vont être des peines de 2 ans de prison à la perpétuité incompressible, notamment pour Salah Abdeslam, ainsi que d'autres co-accusés, mais qui sont des terroristes présumés morts. Plusieurs intérêts de ce débat. Déjà, pour rappeler la question de la perpétuité incompressible sera un des débats qui sera au centre des discussions, qui sera mis en avant par les avocats des mises en cause, des accusés. Ça relance aussi le débat sur la publicité et l'enregistrement. En fait, on est devant une cour d'assises spéciale. Procès hors norme par son importance, qui n'a peut-être pas permis de répondre à toutes les questions que qu'on pouvait se poser sur l'enchaînement des actes, et qui rappelle aussi que la justice, finalement, elle se met en scène. La justice, c'est également un moment de solennité, un moment de publicité. Et ce procès en est l'une des illustrations les plus éclatantes.
Benoît Kennedy, merci beaucoup. Merci pour ce podcast, une nouvelle fois très riche, sur le thème des lieux de pouvoir après la place Beauvau, donc un podcast consacré à la place Vendôme. Nous avons d'autres projets, je crois. On pense à Bercy, mais on pense aussi à l'Élysée. On pense évidemment à l'hôtel Matignon qui se situe rue de Varennes, à 2 encablures à peine. De la prépa ISP. Un petit message pour nos auditeurs. Si ces podcasts sur les lieux de pouvoir vous intéressent, notamment parce qu'ils sont en lien eh bien, avec ce que nous faisons au sein de la prépa, s'ils vous apportent, etc. N'hésitez pas à le dire en commentaire, que l'on sache si on continue ou non cette série, si elle vous intéresse ou non, si elle vous apporte ou non. Merci à tous pour votre écoute. À très bientôt, Benoît Kennedy, au sein des podcasts de l'ISP. On a déjà, encore une fois, plusieurs projets sur le feu. Et merci à tous de votre écoute. Au revoir.